Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Les Roms appellent à la création d'un poste de chargé gouvernemental pour la minorité rome. Les premières maisons de naissance attenant aux hôpitaux pourraient être mises en place en République tchèque. La comédie musicale Once a obtenu à New York 8 prix Tony. L'Association nationale des Roms de République tchèque appelle le Premier ministre Petr Nečas à créer un poste de chargé gouvernemental pour la minorité rome. Ce dernier serait responsable de la mise en place de mesures visant à améliorer les conditions de vie des Roms ainsi que leur cohabitation avec la société majoritaire. C'est ce qu'ont fait savoir ce lundi le président de l'association Vladimir Galbavi et le vice-président de celle-ci Stanislav Daniel à l'issue de leur rencontre avec le chef du gouvernement Petr Nečas qui s'est déclaré favorable au projet. Actuellement, les questions relatives à la minorité rome sont traitées par la chargée gouvernementale des droits de l'homme, Monika Šimunková. Les premières maisons de naissance attenant aux hôpitaux pourraient bientôt voir le jour en République tchèque. L'information a été publiée ce lundi par la télévision tchèque suite à la rencontre des représentants du ministère de la Santé, de la Compagnie Générale d'Assurance Maladie et des sages-femmes tchèques qui constituent la commission pour les accouchements. Cette dernière a été mise en place afin de définir le statut des sages-femmes indépendantes et les conditions dans lesquelles peuvent être effectués des accouchements à domicile. La rencontre a été boycottée par des gynécologues obstétriciens qui sont très nombreux en République tchèque à s'opposer à cette méthode en raison des éventuelles complications qui peuvent survenir. Des maisons de naissance sont une structure intermédiaire qui donne aux femmes la possibilité d'accoucher en intimité, mais à proximité de l'hôpital. Le projet de leur mise en place en République tchèque pourrait être finalisé au cours de cet été. Quelques 3000 spécialistes participent au congrès de la Société européenne de neurologie qui se tient jusqu'au 12 juin prochain au centre des congrès à Prague. Ils se penchent notamment sur les nouvelles méthodes de traitement de la maladie Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose en plaques ou encore des troubles du sommeil. D'après les informations communiquées lors du congrès, 81 millions d'Européens, soit 16% de la population du vieux continent, souffrent de maladies neuropsychiatriques. La comédie musicale Once, qui est une adaptation du film éponyme, a obtenu à New York les prestigieux prix Tony dans 8 des 11 catégories, y compris le prix de la meilleure comédie musicale. Dans le film qui raconte l'histoire d'amour entre un musicien irlandais et une tchèque, les rôles principaux ont été campés par l'irlandais Glenn Hansard et la tchèque Markéta Irglova. Ils sont également les auteurs de la musique du film. Ils ne pouvaient cependant pas obtenir le prix Tony dans leur catégorie, parce que leur musique, y compris la célèbre chanson Falling Slowly, qui leur avait valu un Oscar, avait déjà été utilisée dans le film et ne remplissait donc pas les critères de nomination. Côté météo, mardi, jour de la fête des Antoni, un temps couvert et orageux régnera sur la majorité du territoire tchèque. Des pluies abondantes sont prévues notamment dans le sud et dans l'est du pays. Le soleil fera quelques apparitions dans l'extrême nord de la République tchèque. Les températures maximales seront comprises entre 17 et 21 degrés. La remontée des températures est prévue pour la fin de la semaine. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information. Lidice, c'est un nom que tous les Tchèques connaissent et que de nombreuses personnes ont encore en mémoire à travers le monde. Et pour cause, ce petit village a été rasé de la carte par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale et ses habitants assassinés pour la plupart. 70 ans se sont écoulés depuis cette tragédie. Un sujet un peu moins dramatique ensuite avec la nuit des musées qui s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche et a attiré quelques 200 000 personnes. Et puis sport en deuxième partie d'émission avec du football. Bonne écoute. Ce dimanche, 70 ans se sont écoulés depuis le massacre de Lidice par les nazis. Lidice, petite bourgade à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Prague. Village martyr qui payait le prix de l'assassinat du Reich protecteur de Bohême-Moravie, Reinhard Heydrich. 70 ans plus tard, représentants de l'État et survivants ont rendu hommage aux victimes de Lidice. Une cérémonie du souvenir un peu particulière après une déclaration importante du président allemand.
Achtung, Achtung! Amtlich wird bekannt gegeben. Im Zuge der Fahndungen nach den Mördern des SS-Obergruppenführers Heydrich wurden einwandfreie Hinweise dafür gefunden, dass die Bevölkerung der Ortschaft Lidice bei Kladno
Lidice, c'est plus qu'un événement tragique de la Seconde Guerre mondiale. Lidice est devenu un symbole de la barbarie nazie dans le monde entier, au même titre qu'Oradour-sur-Glane en France, au point que très vite, après le massacre, des villes et villages prennent le nom de Lidice au Mexique, au Brésil, aux États-Unis. Des nouveaux-nés sont baptisés Lidice. Une vague de solidarité chez les mineurs britanniques lance une collecte pour la reconstruction de la commune martyre. Lidice en ferait presque oublier la commune de Léjaké, qui connut le même sort.
10. června roku 1942.
Le 10 juin 1942, longtemps avant que le monde civilisé ne découvre les horreurs des camps d'extermination, la mort des habitants de Lidice a ouvert les yeux de la communauté internationale et a révélé le caractère bestial du nazisme.
C'est par ces mots que le Premier ministre tchèque Petr Nečas a rappelé dimanche le tournant du massacre de Lidice, entièrement rasé par les nazis. Le village est d'abord presque entièrement vidé de ses habitants, les hommes exécutés, les femmes envoyées en camp, les enfants en partie envoyés en Allemagne pour être germanisés. Une réalité encore bien pire pour l'historien Edward Sterlik, auteur d'un ouvrage sur le quotidien de Lidice avant le massacre.
Même dans les encyclopédies étrangères, on présente les choses ainsi, mais ce n'est pas vrai. La majorité à l'époque, comme dans la plupart des pays d'Europe, était à 21 ans. Or, les nazis ont exécuté des garçons de 15 ans. Donc, ce 10 juin 1942, à Lidice, on tire sur des enfants. Les femmes en camp de concentration, on oublie de préciser un détail que c'est à vie. Et pour les enfants envoyés en rééducation dans des familles allemandes, il faut préciser que sur les 150 enfants, seuls 17 sont revenus. Tous les autres ont été gazés.
Miloslava Kalibova est une des survivantes de Lidice. Elle avait 20 ans au moment du massacre. Elle ne pourra rentrer en Tchécoslovaquie qu'en juin 1945.
Dans l'école où tous avaient été rassemblés, les nazis ont séparé les enfants de leur mère. Nous avons été envoyés à Ravensbrück et pendant 3 ans, nous n'avons rien su de Lidice. Et nous avions l'espoir que certains enfants aient survécu. Il était impossible pour nous qu'on ait pu leur faire du mal. Des recherches pour retrouver les survivants ont donc été lancées.
Et parmi ces rares enfants à avoir survécu, Václav Hanf, retrouvé à Salzbourg.
Josefina Napravilova, que je considère comme ma deuxième mère, m'a retrouvé le 23 décembre 1945, soit le jour précédent le réveillon de Noël.
De même, Marie Choupikova, elle avait 10 ans au moment de cet événement tragique. 70 ans plus tard, ses souvenirs sont encore vifs.
Pourquoi ai-je survécu, moi? C'est l'ironie de l'histoire, d'une certaine façon. D'un côté, les Allemands m'ont pris ce que j'avais de plus précieux, mon foyer, ma famille. D'un autre côté, on doit être reconnaissant d'avoir survécu. Ils m'ont choisi, considérant qu'il était possible de me germaniser. Ils avaient certains critères de sélection, mais à ma connaissance, ils choisissaient plutôt les blonds aux yeux bleus. Je n'ai jamais été blonde, mais j'ai eu de la chance. J'ai survécu et j'ai pu rentrer chez moi.
Maria Choupikova s'installera même dans les années 50 dans le nouveau village de Lidice, rebâti à côté du vaste espace vide laissé par les nazis. 70 ans plus tard, le souvenir de Lidice est donc toujours vivant. À la fin de la semaine dernière, le président allemand, Joachim Gauck, a fait parvenir à son homologue tchèque, Václav Klaus, une lettre exprimant sa honte face au massacre de Lidice et Léjaké, insistant sur la responsabilité historique de l'Allemagne. Une lettre acceptée par Václav Klaus comme un signal important du renforcement des liens germano-tchèques. 39 institutions ont participé samedi dernier à la Nuit des musées, dans le cadre de laquelle le public pragois a eu l'occasion de visiter 65 musées et galeries de la capitale tchèque. Les Pragois ont manifesté un vif intérêt pour ce projet et de longues queues se sont formées devant plusieurs musées. Plus de détails avec Václav Richter.
Le projet d'ouvrir gratuitement au public des musées et des galeries est né il y a 9 ans grâce au Musée national de Prague. À l'époque, seulement une dizaine d'institutions y a participé. Depuis ce temps-là, le projet a cependant pris de l'ampleur et s'est étendu aussi à d'autres villes tchèques. Le directeur du Musée national de Prague, Michal Lukeš, constate. C'est une occasion merveilleuse et exceptionnelle, mais les musées sont ouverts pendant tout le reste de l'année et c'est sur cela que nous aimerions attirer l'attention du public. Le bilan de la nuit des musées a été 200 000 entrées, ce qui représente 20 000 de plus que l'année dernière. Milan Lukeš se félicite de ce succès, mais constate que les musées et les galeries du centre-ville se sont retrouvés à la limite de leur capacité. Ce n'est que grâce aux nouvelles institutions qui ont rejoint le projet que tous les visiteurs ont pu être acceptés. Il est donc évident que les Pragois se sont déjà habitués à ce festival des musées et des galeries et qu'ils savent apprécier aussi le côté insolite et romantique de ces visites nocturnes. Ils apprécient également les conférences, les concerts, les projections et les concours organisés par les musées et les galeries à cette occasion. La coordinatrice de cette manifestation, Ivana Havlíková, du Musée national, rappelle encore une autre particularité de cette manifestation.
Ce qui est caractéristique pour ce projet, ce sont les transports et les entrées gratuites. Et il n'y a qu'au cimetière national de Vyšehrad et dont les monuments gérés par le service d'information pragois, dont la tour du pont Charles, que les visiteurs sont obligés de payer le prix symbolique d'une couronne.
Dans le cadre de la nuit des musées, s'est ouvert aux Pragois aussi l'aéroport de Prague-Gbely, une zone militaire normalement inaccessible au public. Le public a été non seulement admis dans cette zone interdite, mais on a levé à cette occasion exceptionnellement aussi la défense de photographier. Les visiteurs, dont beaucoup d'enfants, ont assisté à un show aérien et de parachutistes. Parmi les amateurs des avions militaires, il y avait aussi André Halada qui a eu le privilège de survoler l'aéroport dans un avion. Être dans un avion qui survole l'aéroport militaire de Gbely est évidemment une sensation exceptionnelle. Mais comme je suis chercheur de l'Institut d'histoire militaire et c'est une journée exceptionnelle, cette possibilité m'a été donnée. Cela a été cependant aussi l'occasion de réunir les informations sur cette nuit des musées, sur le nombre des visiteurs et de voir également l'aéroport de Gbely à vol d'oiseau. Pour faciliter le retour nocturne des visiteurs, les horaires du métro pragois ont été prolongés jusqu'à 1h du matin et les lignes nocturnes des tramways ont été renforcées. La nuit des musées de Prague n'a cependant été que le dernier maillon d'un projet beaucoup plus vaste auquel ont pris part depuis le 18 mai dernier 270 musées, galeries, associations civiques et organisations culturelles dans 140 villes tchèques.
On passe à tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Un cauchemar, c'est ce qu'a vécu l'équipe de République tchèque de football lors de son entrée en lice, ratée au championnat d'Europe vendredi dernier. Battue à plate couture par la Russie 1-4 dans un match qui a parfois tourné à la démonstration et bon dernier de leur groupe après un goal average très favorable, les Tchèques, malgré leurs nombreuses faiblesses affichées, doivent absolument se reprendre contre la Grèce ce mardi et si possible gagner. Car si un résultat nul leur permettait encore d'entretenir une lueur d'espoir pour la qualification, une nouvelle défaite les condamnerait en revanche déjà à faire leurs adieux à la compétition. Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
On ne savait pas très bien ce que l'on était en droit d'attendre de cette équipe tchèque avant le début du championnat d'Europe. Après son premier match de groupe contre la Russie, on le sait sans doute un peu mieux, pas grand-chose. Largement défait 4-1 et dominé dans tous les secteurs de jeu par une Russie qui a, elle, confirmé qu'il faudrait probablement compter sur elle, les Tchèques ont laissé une étrange impression à leurs supporters et à l'ensemble des observateurs vendredi soir à Wrocław. À peine l'Euro vient-il de commencer que la représentatie pourrait déjà s'apprêter à faire ses bagages pour le voyage du retour à Prague. En cas de nouvelle défaite contre la Grèce ce mardi, les hommes de Michal Bilek seraient en effet d'ores et déjà éliminés de la course jusqu'au quart de finale. 5 jours seulement après le match d'ouverture entre les deux autres équipes du groupe A, la Pologne et la Grèce, qui s'est lui soldé sur un partage des points, un but partout. Mais nous n'en sommes pas encore là. Inversement, une victoire contre le vainqueur de l'Euro 2004 relancerait les Tchèques avant leur troisième et dernier match contre la Pologne, qui serait alors décisif samedi prochain. Durant la préparation, les joueurs eux-mêmes et l'encadrement technique s'étaient montrés plutôt prudents dans leurs déclarations, expliquant que dans un groupe certes a priori abordable, ils n'auraient rien à perdre et que leur ambition première serait de surprendre et de créer la surprise. Surprenant, les Tchèques à leur manière l'ont été vendredi. Menés 2-0 après seulement 24 minutes de jeu, leur jeu a souvent été proche du néant malgré deux entames prometteuses en première comme en seconde mi-temps. Mais plus inquiétant encore, s'ils ont été dépassés par un adversaire russe qui leur était nettement supérieur techniquement et tactiquement, les partenaires de Tomáš Rosický sont également apparus trop courts dans l'engagement physique, trop tendres et presque naïfs. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur Michal Bilek ne cachait pas sa déception et regrettait les nombreuses erreurs de ses protégés.
Lorsque nous aurions dû ou pu être dangereux en deuxième mi-temps, nous avons trop souvent perdu le ballon inutilement. Cela nous a coûté beaucoup de force et cette énergie nous a manqué vers la fin. Le match est alors devenu un peu foufou. Ça allait d'un camp à l'autre et c'est le scénario qui convenait le mieux à notre adversaire. Les Russes ont su profiter des erreurs que nous avons faites en première comme en deuxième mi-temps. 4 buts encaissés, c'est lourd. C'est une claque et ce n'est jamais très agréable. Maintenant, il va falloir réagir et montrer notre force de caractère. Je reste persuadé que nous avons une équipe capable d'effacer cette défaite lors des 2 prochains matchs.
Jusqu'à l'ouverture du score russe, à la 15e minute, les Tchèques ont semblé pouvoir faire jeu égal avec le demi-finaliste de l'Euro 2008. Mais selon le capitaine et meneur de jeu, Tomáš Rosický, si la possession de balle était plutôt tchèque, c'était d'abord parce que les Russes l'avaient décidé avant le coup d'envoi.
C'était leur tactique, ils voulaient nous attendre et nous laisser jouer pour mieux nous contrer. Ils attendaient nos erreurs et comme nous avons souvent perdu le ballon trop vite, cela favorisait leur plan. Je pense qu'ils ont fait parler leur expérience. Cette défaite est une pilule difficile à avaler, ça fait mal, mais nous ne sommes pas encore éliminés. Ce n'est pas la première fois que nous devons réagir après une défaite et je continue à penser que nous en sommes capables.
Mené de 2 buts au repos, Tomáš Rosický et ses partenaires ont réagi en début de deuxième mi-temps, entretenant brièvement l'espoir d'un retour en réduisant rapidement le score par Václav Pilarge suite à une passe lumineuse de Jaroslav Plachil à la 52e minute. Mais ce fut là le seul et unique éclair de génie du milieu de terrain bordelais, pour le reste bien mal inspiré dans le rôle de milieu défensif qui lui avait été confié. Plus globalement, c'est le repli et le travail défensif de l'ensemble de l'entrejeu tchèque, et plus particulièrement donc du duo Plachil-Petrin-Iracek, qui a été pointé du doigt. Les milieux offensifs et attaquants russes, vifs et habiles, à l'image d'un Archavine retrouvé ou du jeune et prometteur Alan Zagoyev, auteur d'un doublé, ont souvent profité des larges espaces laissés entre la défense et le milieu de terrain tchèque pour s'en donner à cœur joie. Très critiqué par la presse et même sifflé par leurs nombreux supporters qui avaient effectué le court déplacement jusqu'à Wroclaw, les Tchèques avaient logiquement le moral en berne au lendemain de ce qui est considéré comme une débâcle. Comme le reconnaissait Tomáš Rosický lui-même peu à son avantage vendredi soir, pour autant le capitaine de la représentation voulait déjà tourner la page.
Après un tel match, quand vous en prenez 4 et que vous ne pouvez pas fermer l'œil de la nuit, l'ambiance dans le groupe n'est pas vraiment au beau fixe, c'est évident. De notre côté, notre avantage est de rejouer très vite. C'est ce que nous sommes dit dans le vestiaire tout de suite après le match. Ce n'est pas la première fois que nous sommes dans cette situation. En éliminatoire, nous avions aussi perdu notre premier match à domicile contre la Lituanie et tout le monde nous enterrait à l'époque. Il faut donc garder la tête froide, analyser en détail ce qui n'a pas marché contre la Russie et penser au prochain match.
Ce prochain match, ce sera donc contre la Grèce, un adversaire que la République tchèque n'a jamais battu en 3 confrontations. Gagner, si possible, en laissant également une meilleure impression sur le terrain, c'est pourtant ce qui lui sera demandé ce mardi pour entretenir un espoir de qualification, un match nul risquant d'être insuffisant au moment des comptes finaux. Si des changements sont à attendre dans la composition d'équipe, notamment donc dans l'entrejeu et peut-être même également en attaque, où Milan Baroš n'a une nouvelle fois été que l'ombre du meilleur buteur de l'Euro 2004, le manager de l'équipe nationale, Vladimir Schmitzer, pense néanmoins que c'est d'abord aux joueurs de se prendre en main.
C'est à eux de se dire les choses. Il ne s'agit pas de s'engueuler, mais de se parler pour dire ce qui n'a pas été et faire progresser l'équipe. Je pense qu'il y aura des changements contre la Grèce. Il est encore trop tôt pour les évoquer. C'est l'entraîneur qui prendra la décision. Pour moi, ce n'est pas bien compliqué. Si on veut espérer quelque chose dans ce tournoi, il va falloir que l'on joue beaucoup mieux et enfin marquer un but au Grec.
Depuis la partition de la Tchécoslovaquie en 1993, les oppositions tchéco-grecques n'ont toutefois jamais été très folichonnes, deux d'entre elles ayant accouché d'un score nul et vierge de but. Seule la demi-finale de l'Euro 2004 au Portugal, dont le souvenir reste un cauchemar pour tout amateur de football tchèque, avait abouti à une courte et heureuse victoire de la Grèce 1-0 en prolongation. Un résultat dont les Tchèques, à n'en pas douter, se satisferaient toutefois probablement fort bien mardi soir.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous savez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet sous forme d'articles, en podcast, mais également en streaming. L'adresse, vous la connaissez évidemment, c'est le www.radio.cz/fr. Et puis évidemment, n'oubliez pas de consulter notre concours qui est en ligne pour pouvoir y participer. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.